France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Aurélie Olivier. J'ai lu votre Cordon tombe, j'ai été touchée par votre écriture très poétique, drôle, cynique, mais aussi avec une certaine violence. Voilà un aspect très cathartique de ce recueil.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Déni de grossesse et échographie de rattrapage aujourd'hui dans votre book club. Tous les ans, au pays des pépères, il y a 300 bébés répertoriés, 300 minuscules pas perçus, qui, enrôlés dans un cache-cache, stoppent net le jeu, qui n'en est pas un. Voilà comment commence le nouveau livre d'Aurélie Olivier pour parler de ceux qui naissent après avoir été tapis tenus au silence pendant 9 mois dans le corps qui les a portés. Des fœtus qui ne bougent pas et survivent parfois à leur naissance quand ils peuvent s'attacher quelque part. Dans un long poème obsédé de polysémie et d'étymologie, l'autrice redonne du poids à ces bébés impondérables, redonne de la voix à ces êtres tus. Cordon tombe, c'est le génial titre de ce livre et elle est notre invitée. Ensuite et sans transition, on parlera littérature jeunesse avec Mathilde Wagman qui évoque la maison d'édition Benoît Jacques Books, tout juste primée. Et on finira en musique. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Aurélie Olivier.
Bonjour Marie Richeux.
Bienvenue dans le Book Club. Cordon tombe a apparu aux très belles éditions du Commun. Vous avez bénéficié d'une résidence, vous en parlez, à la fin du livre pour l'écrire et peut-être on le mentionnera car ça vous a été précieux. Et du soutien du CNL, ce qui est aussi précieux. Et vous avez publié Corps de ferme aux mêmes éditions du Commun qui avait rencontré beaucoup d'échos. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. On avait lu Corps de ferme avec beaucoup d'émotions, vous avez été aussi reçu sur cette chaîne. Ici, tout commence par un portrait de nos invités qui s'interrogent sur le chemin qu'ils ont eu avec les livres ou pas avec les livres ou un temps avec et puis enfin voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous grandissez dans un endroit où il y a des livres?
Il y a des livres, c'est pas ceux qui sont attendus, mais il y a des livres. Et mon tout premier souvenir de lecture, et c'est vraiment mon premier choc esthétique, je suis très jeune et avec les cousines, aux anniversaires, on s'offre les Martines. Mmh. Et il y a Martine et le cadeau d'anniversaire.
Martine et le cadeau comme le titre de l'album, quoi.
Ouais. Mmh. Et dans ce Martine, je pense que je sais tout juste lire, mais en tout cas, à un moment donné, Martine est triste et je me dis, ah tiens, les livres, c'est un endroit où on a le droit d'être triste. Et je pense que ça, vraiment, ça naît à ce moment-là. Et ensuite, je baigne dans la littérature populaire, en fait. Ma mère est abonnée à France Loisirs, donc je lis très vite des livres qui sont pas de mon âge. Et ça, c'est vraiment toute mon enfance. C'est pareil, le samedi, parfois, on va à la...
Qu'est-ce que vous voulez dire, pas de votre âge?
Bah, je lis très jeune des livres pour adultes, en fait. Donc la sélection France Loisirs, donc plutôt de la littérature populaire.
Vous pensez à quoi? Vous vous souvenez?
Je me rappelle qu'il y avait un titre qui s'appelle Madame Roman, mais je pense que c'était les livres les plus vendus en fait, vraiment ce qu'il y avait de plus vendu. Et puis le samedi, en tout cas enfant, on va à la bibliothèque qui est tenue par des bénévoles dans le village d'à côté. Et là, c'est pareil, c'est plutôt les livres pour adultes qui m'intéressent. Et je me rappelle notamment que j'emprunte les BD des Bidochons que j'aime beaucoup. Mmh. Et jusqu'à ce qu'une bibliothécaire bénévole me dise que c'est pas du tout adapté à mon âge et que en fait elle m'interdit de les emprunter. Mais ouais, il y a ce truc de lecture a priori en tout cas inadaptée longtemps, toute mon enfance je pense. Et puis après il y a le CDI du collège.
On va venir au CDI du collège et peut-être à ce que ça ouvre de nouveau pour vous, mais on parlera tout à l'heure de l'attachement aux mots dans Cordon tombe, et puis c'était aussi le cas dans le corps de ferme. Il y a quelque chose du corps des mots que vous faites, défaites en tout cas, que vous interrogez, Aurélie Olivier. Est-ce que vous vous souvenez de l'apprentissage de la lecture? Vraiment du déchiffrement?
Eh ben, je me souviens que je suis super excitée à l'idée d'apprendre à lire, que je sais que je vais rentrer en CP, que je suis vraiment, j'ai tellement hâte, et je me rappelle que je pose la question... Mais est-ce que, par exemple, le mot cheval, il est aussi gros qu'un cheval? Et je suis très, très excitée. Et je pense que la lecture, du coup, ça a été un truc très, très important pour moi. Enfin, fondamental et depuis très jeune.
Et vous aviez plutôt envie que les mots coïncident avec les choses ou ça vous inquiétait pas que ce soit quand même un peu différent, le mot cheval et le cheval?
Ouais, je pense que à l'époque, j'avais aucun
aucune préférence.
Ouais.
Tout allait bien.
Ouais. J'étais avide de tout lire.
Vous aviez envie de lire, vous aimiez ça?
Ouais, complètement. J'adorais le dictionnaire, les Larousse Junior. Enfin, vraiment, ouais, il y a un truc comme ça de... J'adorais les textes et j'adorais même... Enfin, en fait, je crois qu'il y a un truc même dans le regard, de passer son regard de gauche à droite qui a toujours été très apaisant pour moi, même quand je comprenais pas les textes. Donc, les notices, il y avait un truc comme ça, les enseignes de tout, tout lire, ouais.
Qu'est-ce qui se passe au CDI du collège?
Bah, je pense qu'il y a un documentaliste qui sait regarder, qui sait voir les enfants. Et il se trouve que dans ce collège, il y a aussi un lycée. Et donc, il y a énormément de livres. Il y a vraiment beaucoup de livres. Ce qui me réjouit, et je pense qu'ils voient en fait que je lis tout. Je me rappelle vraiment au collège avoir lu La joie de vivre de Zola, qui n'était pas très joyeuse, mais un peu comme ça, un truc de boulimie, de lire à partir des titres et puis après en fonction de ce que les auteurs mettaient les citations qui étaient en exergue, d'aller vers d'autres lectures comme ça, de me faire un chemin. Et puis je pense qu'il a repéré, parce que j'empruntais énormément de livres, et du coup il me met quelques livres dans les mains, lui. Ouais.
Avec des livres un peu qui vous marquent ou qui produisent quelque chose en particulier?
Bah, je pense que ça m'a marqué dans le lien, en tout cas, où ce que je représentais pour lui, parce que notamment, il me ramène un jour un livre neuf de chez lui, en fait. Donc, ça veut dire que c'était même plus les livres qui étaient au CDI. Et donc, je pense qu'il m'accorde l'attention dont j'ai besoin à ce moment-là, quoi. Et ça me conforte dans le lien
au livre.
Complètement.
Et aujourd'hui, vous trouvez que c'est des bons véhicules entre les gens, les livres?
Ouais, complètement. Complètement. Je trouve que ça dure. Ça reste le territoire français. Après, évidemment, c'est très inégal, mais il y a un truc où ils sont partout. Il y a un maillage territorial, notamment avec ces petites bibliothèques qui sont tenues par des bénévoles, qui fait que c'est des choses qui circulent énormément. Ouais,
absolument. On s'en est rendu compte en commençant le Book Club, après des années et des années d'émissions sur France Culture, qu'on traitait l'objet le plus démocratique avec le livre. Quand vous sortez du CDI du collège, Aurélie Olivier, est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui ouvrent encore peut-être un nouveau temps dans votre vie de lectrice, qui vous ouvrent un autre territoire?
Bah là, ouais, je pense que c'est au lycée pour le coup. Enfin, après, il y a les textes scolaires aussi. Enfin, je me rappelle notamment d'avoir découvert Julien Sorel. Enfin, c'est une période où je pense que je vis majoritairement avec les livres, quoi.
Et vous adhérez à la proposition scolaire de lire, quoi. Il y a des gens qui considèrent que parce qu'on leur demande, du coup, ils n'ont pas envie de le faire. Vous vous dites, ah tiens, intéressant qu'on me demande de lire, j'y vais.
Ouais, ben, en tout cas, là où je grandis, il n'y a pas tant que ça de fenêtre sur l'extérieur. Donc pour moi, c'est énorme. Je fais des transferts énormes sur tous mes enseignants de français. Enfin, non, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. C'est un des endroits où je me sens bien. Et après, plus tard, moi, je commence à travailler très jeune. Et à 16 ans, je suis serveuse. Et là, je suis passée dans un lycée qui n'est plus un collège de campagne. Et donc, je suis dans le lycée un peu le plus chic du département.
Des Côtes d'Armor.
Ouais, des Côtes d'Armor. Où, voilà, j'accède... en tout cas, les gens qui m'entourent appartiennent clairement à une autre classe sociale que la mienne au départ, mais le week-end, je travaille dans une ferme auberge, je suis serveuse, et un jour, il y a un client qui me pince les fesses pour me commander une bouteille de vin. Je suis très choquée, et je pense que j'ai entendu parler de Simone de Beauvoir. Et à ce moment-là, du coup, je pense que j'ai 16 ans et je me rappelle que je supplie ma mère d'aller à la maison de la presse, sachant que à l'époque, acheter des livres, là où je grandissais, en fait, c'est vraiment un voyage. Ça prend pas l'après-midi, mais quasiment. Il y a un truc de se déplacer, de sortir du temps du travail, etc.
Faut que le désir soit fort.
Ouais, c'est ça. Et je crois qu'elle finit par céder. Et donc, je vais lire Le Deuxième Sexe. Et là, c'est énorme de découvrir Simone de Beauvoir à ce moment-là pour moi. Donc je la lis, et puis voilà, et au fur et à mesure, après de toute façon c'était parti jusqu'à faire de ma vie, de m'envelopper des mots des autres, quoi. Ouais.
À 16 ans, vous faites un lien immédiat entre une agression sexuelle et la nécessité de lire.
Et
ouais. Parce que vous le décrivez là comme étant la ressource, quoi. Ah tiens, il m'arrive ça. Ça me choque. Ma réaction, c'est d'aller vers des textes.
Bah, j'ai toujours fait ça. Ça n'a pas changé d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça.
Mais comment vous le saviez ?
Bah là, à 16 ans, je suis déjà au lycée. Enfin, je vois bien qu'il se passe plein de choses dans les livres, qu'il y a des choses dont on parle pas qui sont dans les livres. Mmh. Il suffit de les ouvrir. En plus, c'est facile, les livres, pour la discrétion, quoi. C'est-à-dire qu'on peut lire n'importe quoi, n'importe où. Finalement, personne va vérifier mes lectures. En tout cas, dans ma famille d'origine, on capte que je lis des livres qu'on considère comme compliqués. Mais finalement...
Personne vous embête là-dessus?
Non. C'est pas... Enfin, ça permet une certaine discrétion aussi par rapport à ce qui se développe à l'intérieur.
Et vous dites, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie aux mots, m'envelopper des mots des autres.
Je pense qu'à l'époque, je ne le dis pas comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est très fort. Moi, je commence à travailler après en librairie à 19 ans. Mmh. Et oui, ça a été, et c'est toujours, en fait, même si j'ai traversé le fantasme depuis, et je pense que voilà, j'ai un regard autre aujourd'hui. Il y a un truc comme ça, très, 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 très fort pour moi. Les livres me parlent, quoi. Un peu illuminé, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, la lecture, elle occupe quoi comme place dans votre vie ?
C'est énorme, c'est mon travail. J'ai toujours plein de livres autour de moi. C'est aussi beaucoup plus accessible qu'à l'époque. J'ai pas eu besoin de faire... de supplier qui que ce soit pour avoir des livres. J'en reçois, je suis entourée d'amis, autrices, libraires, des maisons d'édition. Ouais, c'est devenu mon monde.
Peut-être il faut dire, vous avez participé à la création de festivals, vous participez à des projets collectifs d'écriture, vous êtes aussi insérée dans le monde de la poésie contemporaine, des revues. Donc ça fait qu'il y a une sorte de paysage de la littérature contemporaine, des choses en train de s'écrire, de se lire, qui semble assez présent autour de vous. C'est beau de voir la manière dont... Oui, je sais pas, vous semblez très rhizomatiquement relié à tout ça.
Ouais, je pense que vraiment, c'était mon... Je voulais absolument ça, quoi. Travailler dans la littérature, je savais pas comment, je connaissais même pas les métiers, mais il y avait un truc comme ça de... C'était ça que je voulais, et j'étais prête à beaucoup, beaucoup de choses pour ça, quoi.
Et ça tient ses promesses ? En tout cas, ce que vous imaginiez que ça pouvait ou devait vous apporter ?
Ah, évidemment, non, ça tient pas ses promesses. C'est vraiment la traversée du fantasme, quoi. Après, c'est un monde qui a ses propres normes, ses propres injustices.
Mais le monde, c'est pas les textes. Enfin, je veux dire, ce monde-là, c'est pas les textes. Si, ça va ensemble.
Bah, malheureusement. Pour accéder à la publication, même pour avoir accès, il y a plein de textes auxquels j'ai pas accès. Il y a plein de gens qui n'osent pas écrire leur histoire mais j'ai régulièrement des épiphanies, des rencontres littéraires. Enfin, c'est une sorte d'amour réaliste, quoi. Aujourd'hui, je suis plus aveuglée par la passion, et cet aveuglement, il m'a servi aussi, évidemment. Ouais.
Bien servi. Enfin, c'était beau.
C'est ça. Religieux, quoi.
On va parler de votre livre à vous, Corps dont tombe, paru aux éditions du Commun, juste après ça.
Soft melody.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quelle vie s'annonce quand on n'a pas été attendu ? Est-il possible d'envoyer un faire-part rétroactif ? Hacker le silence autour des dénis de grossesse, trouver une langue commune pour, a posteriori, bien prononcer la naissance, subite, et renaître. Voilà l'un des gestes de votre livre, Aurélie Olivier. Vous remontez le cordon ombilical pour cicatriser le nombril et peut-être enfin pouvoir regarder ailleurs, aller se promener. Quitter, je cite, une position de nourrisson assiégé. Si la vie in utero cachée est un point de départ, vous élargissez la pensée et le poème à la question de la naissance en général. Vous faites un détour, par exemple, par la théorie de l'attachement de John Bowlby et l'histoire des mouvements féministes pour la liberté d'avorter. Cordon tombe, apparu aux éditions du Commun, et on en parle avec vous. Peut-être, et si vous voulez bien, on peut commencer par parler de ce titre, dont j'ai dit qu'il était génial, parce qu'il est génial, et qu'il se place d'emblée d'un certain côté du langage où tout va résonner au moins deux fois, au moins trois fois, au moins quatre fois. Il n'y a pas un mot dans ce texte qui va se contenter d'être lui-même. Il y a toujours quelque chose en plus du mot qu'on prononce. Comment vous y êtes arrivée à ce cordon tombe ?
C'était dur parce que le titre de mon précédent livre, Mon corps de ferme, avait tout le monde l'adorait. Donc j'avais une grosse pression et en plus il m'était apparu en rêve sans que, enfin il y avait un truc comme ça.
Dans mon corps de ferme.
Ouais, quelque chose de l'ordre du cadeau quasi. Et Cordon tombe, c'était plus compliqué et je cherchais. Il y en a eu plusieurs et celui-là, il a à nouveau résonné comme une évidence parce qu'il y avait le jeu sur les mots. Il y avait aussi le d'enterrer quelque chose de l'ordre de à la fois de la mort et de la naissance concomitant. Il y avait suffisamment de flou pour que les gens puissent entendre aussi corps dont tombe, c'est-à-dire il en est c'est fini, je ne donne plus mon corps, il m'appartient. C'est fini cette solidarité au silence. Voilà, il était suffisamment riche en fait même avec ce mot tombe qui est à peu près je pense qu'en termes de stratégie communicationnelle, c'est une grosse erreur, mais j'en suis très fière quand même.
Il est incroyable parce que le cordon des bébés pour que le nombril se forme tombe. Donc il y a vraiment, voilà, puis il y a aussi d'aller de la naissance à la mort, le cordon tombe. Enfin, c'est en effet, comme vous dites, vous dites mon corps de ferme était un cadeau, mais là, cordon tombe, c'est un tableau, c'est un cadeau aussi de polysémie. On a parlé tout à l'heure de votre enfance et de votre appétit des mots, et je dis que d'emblée, vous placez votre livre de ce côté-là. Donc, c'est un livre qui n'est pas très épais, mais qui tire son épaisseur justement du fait que les mots ne se contenteront jamais d'être un. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être plus précisément, et là, de votre position d'autrice, de cette grande épaisseur que vous donnez au langage, Aurélie Olivier ?
Je pense que ça vient... En tout cas, je pense que comme j'ai grandi dans le secret, j'en parle un petit peu aussi, dans ce livre, il y a ce truc d'être toujours un peu perplexe vis-à-vis des mots. Mmh. Qu'est-ce qui est dit quand c'est dit ? Il y a un truc comme ça de traquer le sens sous le sens et une attitude quasi naturelle que j'ai. Malgré moi, j'entends quand quelqu'un dit une phrase, si j'ai la disponibilité pour être suffisamment attentive, je vais en entendre déjà plusieurs. Et donc, il y a ce truc-là. Et puis, ça qui peut paraître comme ça un peu obsessionnel, lourd, c'est en vrai aussi une liberté, quoi. C'est échapper au discours, échapper au sens unique, en fait.
À l'univoque aussi, c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus un seul discours qui émettre. Il y a d'autres discours possibles. C'est ça que fait entendre votre texte immédiatement, quoi. C'est que, bien sûr, on peut imaginer que la recherche permanente de discours sous le discours en réaction au secret, c'est lourd. Mais ça veut dire aussi que c'est une grande capacité poétique, quoi.
Ouais, ouais. Et là, enfin, l'exemple le plus, enfin, drôle, en tout cas, parce que ça va loin, en fait, ça va assez loin, ce truc, c'est que, tout à coup de décider que enceinte, c'est l'enceinte, le matériel sonore. Et évidemment, du coup, là, je retourne le mot enceinte et je vais là où je désire, quoi, c'est-à-dire faire grand bruit de ce qui a été silencié au plus profond, quoi.
Et alors, ça, par exemple, ce retournement qui vous permet, comme vous le dites, d'aller vers là où vous désirez, ce qui est clairement le mouvement du texte, de dire que enceinte, donc enceinte que n'a pas été ce corps qui porte, ça devient enceinte qui va péter les tympans de tout le monde. Vous le trouvez quand, ce retournement-là ?
Je sais pas. Enfin, vraiment, c'est enceinte, parce que enceinte, j'étais là. Il y a aussi l'enceinte, être enfermée. Et à un moment donné, ouais, je décide de. Je sais pas, dans un sursaut de liberté, quoi.
Le sursaut de liberté, c'est ce qui va générer le texte. Vous vous souvenez quand même du moment où vous commencez à pouvoir écrire ce texte ou à vouloir écrire ce texte, ce qui est peut-être pas tout à fait pareil.
Ouais, pas tout de suite. Il est annoncé un peu dans mon corps de ferme. Il y a un vers qui l'annonce, et en même temps, mon corps de ferme, il y a déjà tellement de choses à traiter. Enfin, je peux pas.
Dites en quelques, parce que c'est vrai qu'on parle de ce livre comme si tout le monde l'avait lu, mais en quelques mots, mon corps de ferme.
Mon corps de ferme, c'est l'histoire de, donc toujours en poésie narrative documentaire, de mon enfance dans une ferme conventionnelle en Bretagne. Et la nécessité à un moment de la raconter, notamment parce qu'il y a là aussi un jeu sur les mots, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une assignation. Enfin, j'ai une maladie qui s'appelle à un moment donné le mélanome, et je décide que non, en fait, je vais pas cette personne qui meurt jeune. Il y a pas que ça, mais en tout cas, il y a cette idée de rituel magique, et que mélanome, si on écoute bien le mot, c'est aussi mélanome. Donc vas-y, parle. Et donc après, à partir du moment, en tout cas, je me raconte. Que je suis protégée de ça, si, en tout cas de la maladie, si j'arrive à parler.
Ça a marché. On va écouter un premier extrait de votre livre, Corps dont on meurt.
Il n'y a pas déclaration simplifiée de grossesse. Il n'y a pas 7 examens complémentaires et biologiques. Il n'y a pas 3 échographies recommandées. Il n'y a pas poitrine gonflée. Il n'y a pas projection, il n'y a pas entretien prénatal précoce obligatoire. Il n'y a pas ballonnement abdominaux. Il n'y a pas aigreur d'estomac. Il n'y a pas occasion de faire le point. Il n'y a pas sage-femme. Il n'y a pas besoin spécifique. Il n'y a pas recherche des antécédents familiaux. Il n'y a pas massage prénataux. Il n'y a pas point sur l'alimentation. Il n'y a pas point sur les comportements à risque. Il n'y a pas nausée, il n'y a pas imagination, il n'y a pas ventre qui grossit, il n'y a pas information sur l'importance de la vaccination. Il n'y a pas information sur le suivi bucco-dentaire. Il n'y a pas aménorrhée. Il n'y a pas préparation au retour à la maison. Il n'y a pas biberon, pas lait en poudre. Il n'y a pas couverture peau d'agneau. Il n'y a pas vaccin gratuit contre la grippe saisonnière. Il n'y a pas émotion particulière. Il y a l'éclairage fermeture boîte de nuit, et à l'intérieur, moi qui m'attache à ce qu'il y a, le vertige des origines servi au lit.
Ce n'est pas le début de votre texte, Aurélie Olivier, mais pourtant, la première fois que j'ai lu votre texte à la fin de l'été, c'est cette page-là qui m'a retenue, et puis... Quand on a préparé l'émission d'aujourd'hui, c'est de nouveau cette page-là qui m'a retenue. Parce que je me disais, pour parler du déni de grossesse, qu'est-ce qu'on a si on commence pas par ce qu'il n'y a pas ? Enfin, ça me semblait être un geste de départ de commencer par ce qu'il n'y a pas. Comme une solution, en fait, aussi, mais presque dans le langage, quoi. D'énumérer ce qu'il n'y a pas.
Ouais, c'est aussi le format de la liste. C'est aussi une manière pour moi, qui arrive à plusieurs reprises dans le livre, c'est une manière pour moi de border le vertige, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des listes, comme ça, c'est... Enfin, il y a ce truc de ne pas partir trop loin avec ces questions ontologiques, en tout cas de ne pas être débordé par elles. Et revenir à une liste, en plus, très, très factuelle. Donc, c'est vraiment littéralement la liste, je pense, des choses qui se passent quand un accouchement se passe normalement. Ou
Une grossesse
se passe normalement.
En France, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est en gros la liste des étapes que va traverser une femme, quoi.
Ou une personne,
qui porte
un enfant. Et oui, c'est ça, c'est écrire à part. Et du coup, j'essaye de faire du feu avec c'est pas grand chose, quoi. Et donc de dire aussi ce qu'il n'y a pas. Le livre, il est composé à partir de ce qu'il n'y a pas et des choses qu'il y a et qui sont majoritairement extrêmement décevantes sur le sujet, quoi.
Vous voulez dire d'un point de vue de ce que vous avez, vous, à disposition comme matériel ou de ce qu'il y a dans la société ?
Bah, les deux, en fait, c'est-à-dire que... Mais ce que, oui, mes premières recherches, en tout cas... Et encore, il y a même des choses que j'ai décidé de pas traiter parce que c'était trop dur pour moi. Mais c'est, enfin, les versions trash de ces histoires, c'est les tabloïds, quoi, qui racontent les enfants dans les toilettes et qui... Enfin, voilà, le truc du sensationnel. Et donc, moi... c'est dur de me... Je cherche des choses auxquelles m'accrocher pour essayer de raconter cette histoire qui m'obsède. Et du coup, j'en viens à me demander à un moment donné comment ça se passe quand ça se passe normalement. Donc, je vais sur le site d'Amélie, je suis des vidéos sur la grossesse, je vois plein de documents et je décide de les travailler, de travailler à partir de leur langue, quoi.
Dans un entretien autour de la publication de ce livre, vous avez dit que pour aller dans ces zones archaïques-là, il faut être armé de certains outils que, par miracle, j'ai. Et que c'est pas sans risque d'aller dans ces zones-là, ni pour vous, ni pour toutes les personnes qui sont nées après un déni de grossesse. Et puis on peut élargir, ni pour aucun des individus qui s'intéressent au néant des avants de l'existence, en fait. Et vous, vous dites... Bizarrement, j'ai les outils. Vous avez douté de les avoir avant de vous lancer dans ce texte-là, dont vous dites que, en effet, le vertige, il est bien grand.
C'était complètement fou. Enfin, c'était vraiment une période. J'étais extrêmement fatiguée de l'écrire. Je dormais énormément la journée. Enfin, retraverser cette expérience-là, c'était. J'ai aussi suivi des vidéos, j'ai trouvé des vidéos de psy américains sur ce qu'on appelle le reparenting. Donc l'idée de pour retraverser souvent son enfance, mais là encore même in utero. Et donc il y a un truc comme ça d'ontologique. Mais moi j'avais besoin d'aller... Ouais, je pense que j'avais tellement besoin que j'y ai été, mais... Oui, il y a quelque chose comme ça de... qui met dans tous ces états. Il faut vraiment avoir besoin d'y aller pour aller les explorer, quoi.
On va écouter la voix de Sophie Marinopoulos, qui dans un documentaire essaye de produire une pensée sur les dénis de grossesse, sachant que une pensée générale sur les dénis de grossesse est difficile à formuler, mais elle le fait.
Penser l'enfant, ça fait partie de la nidation, ça fait partie de l'arrivée de l'enfant. Ce n'est pas une maladie, c'est un mécanisme de défense, une non-prise de conscience de la réalité de la grossesse. Il n'y a aucune représentation d'enfant, aucune, il y a juste un corps qui part en 1000 morceaux. Ce n'est pas un enfant, c'est un bout. Avant le déni de grossesse, il y a le déni de son intimité, il y a le déni de son corps, il y a le déni de ses émotions... Ben, ça parle quand même d'une situation de carence. On retrouve ce vide intérieur. On voudrait qu'il y ait une raison concrète. Mais la carence affective, c'est terrifiant. La raison pour laquelle c'est un sujet tabou, c'est peut-être aussi que c'est trop près de nous. Ça peut être notre mère, notre sœur, notre tante, notre copine, notre cousine. Ça aussi, ça nous bouleverse quand même. Je crois vraiment que ce sujet dérange notre société profondément. C'est l'ultime provocation. Vous voyez, c'est cette part psychique qui n'est pas entendue, la part irrationnelle. Je pense que oui, c'est la situation maternelle la plus bousculante.
Défense protectrice, défense devoir. Défense résistante, défense d'entrée, défense en bloc, défense de partage, défense autoritaire, défense de sortir, défense impensée, défense de reconnaître, défense restrictive, défense de faiblesse, défense obsessionnelle, défense de récit, défense monolithe, défense d'interruption, défense d'irruption. Défense d'approcher, défense de reproche, défense omnipotente, défense de réflexivité, défense de toucher, défense de couler.
Un autre extrait de votre livre, Aurélie Olivier, toujours dans cette forme de la liste dont on a dit tout à l'heure qu'elle était, elle revenait à plusieurs reprises. Et juste avant, un extrait d'un documentaire qui a été diffusé en décembre 2024 sur France Inter, sur les dénis de grossesse et la voix de Sophie Marinopoulos, dont je disais qu'elle tentait quelque chose de général. Bon, parce que moi, je me dis que c'est pas possible de formuler quelque chose de général sur des expériences aussi singulières. Mais est-ce que vous avez été en appétit de paroles ou de textes qui tentent quelque chose pour comprendre, enfin, ce genre de paroles-là, en tout cas?
Oui, il y a eu plusieurs choses qui étaient globalement décevantes et violentes. Il y a les talk shows, où il y a vraiment ce truc de jouer avec le sensationnel, quoi, de jouer avec, comme si l'insensé du corps, en fait, on ne le retrouvait pas partout, dans tous les endroits. Il y a un truc comme ça. Comme si les accouchements, les maternités étaient heureuses.
Ouais.
Et puis après, les prises de parole, le problème, c'est quand on regarde les biographies des gens qui prennent la parole, en fait, c'est majoritairement des gens qui sont extrêmement réactionnaires, quoi. Donc, ouais, ça m'a mis en colère, en vrai.
Il y a rien qui a répondu à la soif de comprendre que vous aviez.
Non, et puis il y a personne qui remet en cause le patriarcat, en fait. Il y a un truc où ça devient jamais politique, quoi. Il y a un truc comme ça un peu nébuleux, aussi très regardant de haut les choses. Il y a un truc comme ça qui, moi, me convenait pas du tout. D'où le choix, à un moment donné, en tout cas dans mon livre, de regarder plus généralement c'est quoi la naissance en France. Et en fait, il y a un continuum de violence. Et que moi, je suis, en tout cas pas moi, mais ma naissance, elle est liée peut-être à quelque chose, et certainement à quelque chose d'extrême. Mais là, ce qu'elle dit, défense de récit. Enfin, en fait, c'est pas pour rien qu'on fabrique, qu'on n'arrive pas à faire fabriquer son histoire. C'est pas pour rien qu'on est dissocié à ce point-là et que ce soit abordé nulle part. Je trouve ça très décevant, quoi. Ouais.
Il y a dans cette liste qu'on vient d'entendre une défense qui peut à la fois circuler du corps qui a porté sans le savoir, une défense qui serait faite au corps social qui veut pas entendre, qui peut pas entendre, qui veut pas voir. Et puis il y a une défense qui est faite, qui est adressée au petit corps qui pendant ce temps-là, lui, se tapit, fait silence et réussit à être complètement invisible aux yeux du corps qui porte et puis aux yeux du corps social. Il y a quelque chose que vous réussissez dans Cordon tombe, Aurélie Olivier, c'est de donner du poids à ces impondérables, c'est-à-dire à ces corps sujets qui passent sous silence et sous les radars pendant 9 mois et qui ont pour rôle de ne pas peser. Vous leur donnez du poids, mais comme si vous leur donniez du poids de sujet, du poids d'être, du poids de mots, quoi.
Bah c'était l'idée, en tout cas, de... Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans tout mon travail. C'est vraiment rendre visible ce qui est invisible et ou donner du poids à ce qui, la plupart du temps, n'en a pas. Travailler à partir des paroles qui ne sont pas considérées légitimées... En tout cas, avec ce que je sais faire, moi, avec les mots, avec les accès auxquels j'ai, c'est mettre ça au milieu de la table, quoi.
Et vous dites hacker le silence. Il y a quelque chose qui en effet, fait entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu. Alors, on pourrait se dire, ça vaut pour un bébé qui s'est développé et qu'on n'a pas entendu. Mais plus généralement, on a l'impression que c'est un geste qui vaut pour tout ce qui ne serait pas entendu. Et il y a masse de choses, quoi.
Ouais, c'est... J'ai encore beaucoup de travail.
Peut-être vous n'êtes pas seule.
Non, on est nombreuses.
C'est intéressant quand même qu'il y ait quelque chose du geste poétique qui se situe à cet endroit-là en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous ouvre une voie et puis à d'autres?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a... Les chemins sont pas faciles ni pavés d'or, mais on est nombreuses.
Il y a quelque chose aussi qui raconte comment, à la place de pouvoir penser le temps de la gestation, la vie in utero, il y a un conte qui est lié à Noël, qui est lié aussi à un grand conte, voilà, un grand récit qui serait l'Immaculée Conception. Et la voix narratrice raconte comment elle va poser au petit matin le petit Jésus dans la crèche et que par ce geste-là, peut-être pendant au moins jusqu'à l'adolescence, elle fait quelque chose qui prend place du discours qui ne peut pas avoir lieu, quoi, ni pour elle, ni pour ses parents, ni par la famille. C'est hyper, c'est fou de penser ça. Enfin, je vois comme c'est hyper beau que cette jeune femme, elle fasse ce geste-là, cet enfant, elle fasse ce geste-là.
Merci. Oui, c'est bah après en fait on moi je raconte des histoires avec des mots, mais il y a mille manières de raconter des histoires autrement. Et bon, enfant, je savais pas l'histoire de ma naissance déjà, mais en fait je savais sans savoir. Et donc il y avait ce truc là, cette joie énorme d'aller placer le petit Jésus dans la crèche. Et et en fait ce truc aussi enfant de, enfin, à quel point la religion elle est soutenante, parce que le miracle a le droit d'exister. Quoi.
Et un jour, ça chute. Vous racontez comment ce conte chute et qu'il faut faire avec ce qui reste, quoi. Alors, ça repart de là. Mmh. Et on revient au continent de « il n'y a pas
». Oui, bah, à un moment donné, le secret est levé. Et c'est, mais j'avais déjà, c'était quelque chose qui m'obsédait même quand je savais pas. Enfin, à partir de l'adolescence, du coup, le catholicisme n'a plus suffi. Et il y a ce moment où, à la faveur d'un verre de trop dans un repas de famille, j'évente de cette naissance. Et là, c'est un énorme soulagement, en fait, de savoir. D'ailleurs, le premier conseil que les sages-femmes donnent dans ce genre de naissance, c'est de raconter même au nourrisson sa naissance, en fait, que les choses lui soient dites. Et donc, c'est un énorme soulagement. Et en même temps, il y a des choses qui demeurent, parce que on me le dit, mais sans me le dire, c'était comme ça. Et après, je suis livrée, du coup, à nouveau, à moi-même, j'essaye de fabriquer un récit. Il y a très peu de récits. Et en fait, très concrètement, je me réveille le matin. Donc, comme si, enfin, on pourrait dire qu'on naîtrait chaque matin. Mmh. Et moi, en fait, je mène une vie, on va dire, relativement riche, stable, etc. Mais il y a tous ces matins où je me réveille extrêmement angoissée, comme si j'avais pas de socle. Et d'où la nécessité d'écrire cette histoire pour goûter aux grâces matinées maintenant.
Et vous dites aussi bien prononcer la naissance a posteriori. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce livre-là qui dit le rôle que tiennent les mots bien prononcés dans le corps des tout-petits, puis dans ceux qui grandissent, et puis dans nous toutes et tous qui avons été des tout-petits. Et comment bien prononcer, entre autres, les naissances, mais pas que, ben, ça agit sur le corps, ça tient. Enfin, vraiment, vous en faites quelque chose de tangible, le langage, dans ce livre-là, Aurélie Olivier. Si bien que, par exemple, vous allez voir du côté de, je le disais, la théorie de l'attachement, parce que dans ces bébés qui naissent après que le corps qui les a portés a ignoré leur naissance, comme vous dites, soudaine, la possibilité de continuer de vivre, vous la rattachez à l'attachement, à la possibilité de s'attacher. Qu'est-ce qui fait que vous allez de ce côté-là, vous, dans Cordon Tombe, ça arrive comme par hasard, quoi.
Alors, j'ai vraiment cette technique, quand je suis un peu perdue, d'ouvrir un de mes livres par hasard. Enfin, après, par hasard, ça veut dire quoi? En tout cas, j'avais vraiment ce livre de Bowlby. Chez moi, j'étais en train de le lire et je suis tombée sur... sur la théorie de l'attachement. Et évidemment, en fait, c'est ça. Enfin, il y a cette naissance, il y a le truc physique qui est compliqué. Mais je suis... j'étais un petit bébé, mais en entier, avec toutes ces facultés. En revanche, il y a un truc après dans le lien qui est évidemment extrêmement compliqué. Parce que les 9 mois, ils sont pas là par hasard. Et puis il y avait toujours aussi, mais à nouveau comme dans mon corps de ferme, ce truc de faire attention quand on parle, parce qu'il y a deux personnes dans cette histoire. Et moi, par respect aussi pour ma mère, c'est vraiment mon histoire que je voulais pas raconter, que je voulais raconter et pas la sienne.
C'est aussi pour ça que comme je le disais, vous donnez du poids. Ce petit bébé qui grandit à l'abri du corps et du regard.
Ouais.
C'est surtout lui qu'on entend.
Mais aussi, je suis nourrie de le peu de textes, malheureusement, en France. Mais là, il y a un nouveau livre qui est sorti de toutes les questions de justice reproductive qui sont plus présentes aux États-Unis. Et donc, l'importance de ces naissances, après la toute petite enfance, celle dont on ne se rappelle pas. Donc, c'est-à-dire avant 3 ans. Ce qu'il y a de déterminant à ce moment-là. Et évidemment, avec des naissances pareilles, l'attachement, le lien, c'est extrêmement compliqué, quoi. Surtout si c'est pas traité, si c'est tu, quoi.
Je le disais, bien sûr, vous faites de ce point de départ, de cette naissance après déni de grossesse, un point de départ. Et puis ensuite, vous inscrivez le déni de grossesse et cette naissance particulière dans un rapport à la naissance. Dans la façon dont le monde contemporain, on va dire en France, voilà, parce que vous dites aussi à la fin que ça vous intéresse ce qui est en train d'être pensé de l'autre côté de l'Atlantique, et puis on ne naît pas pareil partout en ce moment. Mais en tout cas, il y a une façon de prendre en charge la naissance ou de ne pas la prendre en charge qui fait que cette naissance toute particulière, elle s'inscrit dans une histoire et ça vous emmène à la création illégale des plannings familiaux, ça vous emmène au droit d'avorter, ça vous emmène à la place qu'occupe la gynécologie aujourd'hui dans la médecine. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, désisole, en fait.
Ouais, c'est ça. Je me rattache à l'histoire plus générale aussi parce que le grand délire du livre, c'est quand même que je crois que je vais pouvoir m'auto-engendrer. Donc, je me renseigne, quoi. J'essaye de m'informer au maximum. Et là, je tombe sur des choses qui me bouleversent, qui me racontent aussi que c'est toute une histoire de la naissance qui est bafouée, en fait.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Liliane Giraudon, poétesse, autrice, parler de l'entité qui écrit.
Celui qui signe ses livres n'est pas celui qui les écrit, heureusement, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on écrit. Mais bon, si c'est vraiment le produit de notre moi, effectivement, il y a un écart. Donc ça joue aussi sur ce battement, c'est le problème du battement. Et ça joue aussi sur comment faire un livre, comment faire pour continuer à écrire. Comment faire même, tout simplement, pour continuer à vivre? Je crois qu'on ne devrait écrire que lorsque on le fait avec courage. C'est-à-dire lorsque c'est lié à la nécessité ou à l'urgence intérieure de quelque chose. Mais tout ça repose finalement sur du secret, même pour celui qui écrit. Ce qui fait que, souvent, on écrit en vain ou on n'écrit pas quand on écrit.
La voix de Liliane Giraudon en 2002 sur France Culture au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain, parler de la nécessité, du courage, mais aussi de la distinction à faire entre peut-être celle ou celui qu'on est et celle ou celui qui écrit. Voilà, on imagine qu'il en a fallu du courage, Aurélie Olivier, pour écrire Cordon tombe. Mais peut-être qu'on n'imagine pas au bon endroit, je sais pas.
Ce que je retiens dans les mots de Liliane, c'est aussi la nécessité, quoi. Je pouvais pas faire autrement. C'était fort. Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit aussi sur... on sait pas...
C'est un secret, ouais.
Ouais, on sait pas. Il y a une partie de moi qui est... notamment la partie la plus enfantine qui écrit, là. Cordon tombe, je la sollicite assez rarement dans la vie civile, quoi.
Et c'est plutôt, c'est une voie d'existence des mots que vous chérissez ou au contraire qui vous effraie, enfin...
Moi, j'ai de la tendresse pour elle, je crois.
J'aimerais qu'on écoute Séverine, auditrice du Book Club. Elle a lu Cordon tombe, elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Aurélie Olivier. J'ai lu votre Cordon tombe, j'ai été touchée par votre écriture, très poétique, drôle, cynique, mais aussi avec une certaine violence. On ressent une grande colère quand vous brûlez les pyjamas, par exemple, de bébé. Donc ma question est la suivante, est-ce que l'écriture de ce recueil vous a permis de vous apaiser? Et est-ce que le fait d'écrire les choses permet de les transcender? Voilà, merci de votre réponse.
Merci. Merci à vous, Séverine, pour cette lecture et pour cette question. Aurélie Olivier, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, si on a un petit peu parlé de la place de la colère, mais c'est quelque chose qui a beaucoup retenu Séverine.
Ouais, je suis quelqu'un de plutôt en colère contre le monde tel qu'il est, en tout cas, ça c'est clair. La colère dans le livre, elle existe, mais elle est aussi vraiment matinée d'humour, puisque je n'ai pas en vrai été dévalisée. Il y a aussi un truc de caprice enfantin que j'ai pas eu le droit, enfin, que j'ai jamais eu le droit de faire. J'étais une enfant très facile, donc c'est accéder vraiment le droit d'être difficile.
Dans le texte.
Dans le texte, complètement.
Donc, de cramer
des pyjamas. Au petit-déj. Mais c'est sûr. C'est sûr, vraiment en retard, mais c'est sûr que vraiment, je me réveille plus du tout dans cet état. Donc, ouais, je crois vraiment au pouvoir des mots, peu importe qu'il s'agisse d'un livre, ou en tout cas, c'est sûr que dire les choses, donner un sens à l'insensé, c'est quelque chose qui calme.
Elle parle d'un pouvoir cathartique, elle vous demande pour vous, mais on peut faire l'hypothèse aussi qu'un livre publié, c'est s'imaginer qu'il y a quelque chose de cathartique pour autrui, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose pour autrui. Souvent, quand vous répondez que vous avez d'abord écrit « Cordon tombe » pour vous, voilà, répétez la notion de nécessité, et en même temps, c'est nous qui l'avons dans les mains maintenant.
Alors dans les faits, il y a peu d'enfants qui survivent à ce type de naissance parce que 80% d'entre eux meurent à la naissance. Mais en tout cas, si les 20% restants ont accès à leur histoire, déjà savent qu'ils sont nés comme ça, puis ont accès à mon livre et que ça peut leur servir, j'en serais très heureuse. Et après, dans les rencontres en librairie, en tout cas, j'ai l'impression que toute personne qui a donné naissance et en vrai, je pense que ce livre concerne toutes les personnes qui sont nées.
Moi, c'est ce que je dis tout le temps à propos de la naissance, c'est que ça concerne tout le monde.
Voilà. Et mon public de rêve, ce serait les sages-femmes.
Attention, ouvrez vos oreilles. Ce serait les sages-femmes, c'est vrai.
Ouais, je pense tous ces milieux-là où, ils sont en relation avec ce que j'appelle le plus vulnérable des miracles tous les jours. Ouais, que ça, j'aimerais vraiment que ça circule auprès d'elles. Et puis, bien sûr, le ministère de la Santé, hein, bien sûr.
Allô, le ministère? Vous parlez d'une sage-femme, Chantal Birman, c'est vrai qu'on la cite souvent, elle est emblématique, elle a participé à la circulation d'une certaine pensée de la naissance dans un film documentaire qui s'appelle « À la vie ». Ça aussi, ça élargit aussi, je disais, vous élargissez le pensée et le poème. Vous évoquiez d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a une maternité très importante, notamment politiquement, la maternité des Lilas qui a fermé et qui a porté une pensée de la naissance. Et vous dites même dans ces endroits-là où les femmes ou les personnes qui ont porté ou donné naissance vont remercier ad libitum les sages-femmes, il y a quelque chose qui reste impensé, pas assez pensé, pas assez parlé, assez de temps aussi.
En fait, même ces endroits-là, je pense que la fermeture en est la preuve. Malheureusement, c'est soumis à la rentabilité et au monde... capitaliste, c'est-à-dire que c'est vraiment une des dernières choses à laquelle on s'intéresse, un endroit où il y a assez peu de finalement droit à la singularité. Et c'est pas tant moi qui le dis que dans ce documentaire, en fait, il y a à un moment donné des sages-femmes qui se regroupent, ce documentaire d'Aude Pépin.
Dans un dîner d'ailleurs, il y a vraiment un truc hyper.
Corporatiste entre copines du même métier, et elles disent tous les accouchements qui se passent. Dans les maternités, même quand les personnes qui donnent naissance remercient, ça se passe jamais comme ça pourrait se passer au mieux, quoi, parce que c'est toujours soumis à la rentabilité.
Le book club continue. Et à cette heure-ci, comme chaque mardi, c'est l'heure de parler un peu de littérature jeunesse à ce micro avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Comme chaque année, à quelques semaines de la tenue du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui a lieu donc du 26 novembre au 1er décembre prochain, on y reviendra ici dans le Book Club, les équipes du Salon ont décerné jeudi dernier un prix qui s'appelle le prix de la Grande Ourse, par lequel elles honorent chaque année un auteur ou une autrice francophone pour l'ensemble de son œuvre.
Exactement, Marie. Ce prix créé en 2019 met en effet en lumière l'ensemble du travail d'un ou d'une artiste. Marc Boutavant, Beatrice Alemania ou l'an dernier Suzy Morgenstern ont fait partie des lauréats. Je le confesse, toute honte bue, je ne connaissais ni le nom ni les livres de celui qui s'est vu cette année couronné. Il s'agit de Benoît Jacques. Je me suis procuré depuis l'annonce de cette récompense jeudi le plus de livres de lui que j'ai pu trouver. Cette chronique rendra compte de la découverte encore partielle de cette œuvre. Pour présenter Benoît Jacques, il faut, je crois, commencer par dire qu'il est l'éditeur de ses propres livres grâce à la maison d'édition qu'il a lui-même fondée, Benoît Jacques Books, sise à l'endroit où l'homme s'est aussi construit une maison, c'est-à-dire à Montigny-sur-Loing, en Seine-et-Marne, au sud de la forêt de Fontainebleau. Né à Bruxelles en 1958, il s'y est établi après des études de dessin interrompues, puis 12 années passées à Londres où il travailla notamment dans un bureau de design graphique, école importante pour lui. Par envie de mettre la main à chaque étape du travail, de la conception à la livraison en passant par la fabrication des livres, il en est donc venu à fonder sa propre maison pour éditer ses propres ouvrages, une cinquantaine à paru, tirés parfois à quelques centaines d'exemplaires, parfois à plusieurs milliers, tel par exemple La Nuit du Visiteur, hilarant et magnifique album qui voit la mère grande du petit chaperon rouge, sourde comme un pot, rendre le malheureux loup zinzin. Livre qui avait reçu en 2008 un prix du Salon de Montreuil déjà, contribuant à sa renommée. En 2020, à l'occasion des 30 ans de sa maison, Benoît Jacques avait accordé un très bel entretien à Christian Rosset pour la revue en ligne Diacritique, dans lequel il parlait de son fantasme du livre. Je vous en livre deux citations qui disent bien, je crois, ce qui l'anime. « J'ai un jour accompagné mon père chez un typographe belge, racontait-il, j'avais 13 ans. Je me souviens de cet après-midi comme d'une sorte d'éblouissement, de moment décisif. Voilà un monsieur qui travaillait dans le domaine du livre, mais qui avait un atelier comme un artiste. Il m'est apparu tel un savant, parlant avec passion de son métier et de cette science extraordinaire, complètement neuve pour moi, celle du dessin des lettres et de la mise en page. » En arrière-plan de cette rencontre est venu très vite tout l'univers fascinant de l'imprimerie. Subitement, le monde du livre a pris un aspect plus concret. Il y avait, en marge des questions d'écriture et de lecture, celle de la création, de la construction, de la fabrication de cet objet. Un peu plus loin, Benoît Jacques dit encore « On peut parler de mon désir de faire des livres qui soient « beaux », entre guillemets, dans le sens qu'ils se veulent agréables à l'œil, à la main et au nez, l'encre d'imprimerie sent bon, comme d'une marque de fabrique. » Ma façon d'utiliser le livre comme un terrain de jeu auquel j'attribuerais de nouvelles règles à chaque nouvelle publication peut également être considérée comme une marque de fabrique. » Fin de citation. Ces mots disent admirablement ce qui anime tant d'auteurs, d'imprimeurs, d'éditeurs, cette attention à l'objet livre et tout ce que sa fabrique, conçue comme un artisanat, recouvre.
Ça, c'est intéressant, Mathilde. Et du coup, on a très envie que vous nous parliez de ces livres.
Oui, monsieur. Oui, s'ils ont tous en commun ces livres un trait singulier et immédiatement reconnaissable, le trait, je veux dire, au sens du dessin, ils sont de formes, de propos, de tonalités et d'allures diverses, avec peu, pas ou beaucoup de textes, comme si l'homme résistait par tous ses pores à être mis dans une quelconque case. L'appellation même d'auteur pour la jeunesse est discutable. Benoît Jacques écrit pour des êtres qui résistent eux aussi à la casification. On peut cependant à coup sûr partager la lecture de certains de ses livres avec des enfants. Je vous livre quelques-uns de mes coups de cœur parmi ceux-ci. Attention extraterrestre, livre de petit format qui raconte l'arrivée sur Terre de vilains petits bonshommes issus de fruits bizarres. Oiseau-con, orthographié W-A, plus loin Z-O, plus loin K-O-N-G, dans une typographie qui évoque les calligraphies chinoises, composée d'une série de linogravures et d'eau-forte en noir et blanc, l'histoire d'un oiseau-con et de comment il est con. Pop-up, variation joliment satirique sur ce format classique des albums jeunesse. Mais puisqu'il a été aujourd'hui question des livres de poésie d'Aurélie Olivier, dont les couvertures et la typographie comptent aussi dans le bonheur qu'on a à les lire, je voudrais pour finir recommander ce livre de Benoît Jacques dont le seul titre m'a enchantée. Il s'appelle « Vivre », entre parenthèses, un poème pour. Un petit volume souple aux pages brochées qui nous accueille par de grandes fleurs bleues sur la couverture et sur le bandeau. Un livre comme un bouquet, une série de peintures muettes avec des oiseaux, une traversée des champs, un cheval et au cœur duquel est déposé un poème que je n'ai hélas plus le temps de vous lire mais dont la lecture est absolument bouleversante.
Où est-ce qu'on peut trouver ces livres, Mathilde ?
Je vous renvoie vers le site de Benoît Jacques qui recense les librairies où on peut se les procurer et je vous signale aussi qu'on peut les lui commander directement à lui via ce même site. Si vous passez par cette voie, sachez que c'est Benoît Jacques lui-même qui se chargera de les expédier et qu'il met un soin à l'empaquetage de ces livres presque aussi grand qu'à leur conception. Même si on redoute un peu pour lui la charge de travail que cela pourrait représenter, on espère que cette grande ours le fera crouler sous les commandes.
Puis on ira en librairie. On ajoute qu'on pourra aussi le rencontrer et trouver ses livres donc au Salon de Montreuil fin novembre. Toutes les infos à retrouver sur le site de votre chronique Mathilde. Lecture jeunesse sur le site France Culture ou l'appli Radio France. Merci Mathilde. Et à la fin de l'émission, on joue au grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les textes. On n'a pas trouvé de musique dans Cordon Tombe, Aurélie Olivier.
Ah, c'est que vous avez...
Mal cherché. Ah mince.
Il y a plusieurs clins d'œil à la variété française, ouais.
Mais attendez, non. D'habitude, on fait bien notre travail.
Il y a France Gall et Jean-Jacques Goldman à un moment donné.
Il y a Si, Maman, Si. Ça, c'est Souchon.
C'est
France Gall, absolument. Ouais. Et
il y a Encore un matin.
De Jean-Jacques Goldman. On est trop nuls. Ben, du coup, on fera des pages musicales de Cordon Tombe dans une autre émission. Là, c'est Myriam qui nous a envoyé un extrait d'un livre qui s'appelle Les deux visages du monde de David Joy, paru en 2024 pour l'édition française chez La Griffe Noire.
Je me suis dit.
Vess fredonnait une chanson quand Toya traversa le jardin. La vieille femme avait un timbre magnifique entre ténor et alto, un vibrato fluide et naturel résonnant du plus profond d'elle-même. C'est quoi cette chanson ? Oh, tu la connais pas. Vess planta le dernier tuteur et ficha le maillet dans la terre. Passe-moi cette ficelle. C'est Nina Simone, non ? Vess éclata de rire et repoussa ses lunettes sur l'arête de son nez. Qu'est-ce que tu connais, Nina Simone ? Maman chantait tout le temps cette chanson. Vess sourit. Elle ne s'était pas attendue à cela de la part de sa fille, mais elle en fut ravie. Quand Daina était petite, elle lui avait chanté cette chanson des centaines de fois. Elles s'étaient éloignées l'une de l'autre depuis la mort de Lone, aussi était-il bon d'entendre que certaines choses demeuraient. Tu sais qu'elle a grandi dans ces montagnes ? Qui ? Nina Simone ? Non, c'est pas vrai. Si ? Vess traîna exagérément sur la voyelle et gloussa. Comté de Polk. Nina était une fille des montagnes, comme moi. Écoute bien et tu l'entendras. Ain't got no, commença à chanter Nina. Et alors que les premiers mots résonnaient, Vess ferma les yeux et les laissa se nicher au centre de sa poitrine. Toya se balança au rythme de la musique, ondulant surtout des épaules au début, un lent déhanchement tête baissée, de sorte que ses tresses oscillèrent devant elle. De Nina Simone est signée par l'artiste Le Volume Courbe. C'est trop beau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélie Olivier, pour parler de votre livre Cordon Tombe, paru aux éditions du Commun. Et on a aussi cité plusieurs fois, donc je le refais, Mon corps de ferme. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Alexandre Dang était au son, à la réalisation Anna Holweg. Un grand merci à toute l'équipe de France Culture, particulièrement à Jeanne Aléos pour poursuivre la conversation. Rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club.